Super. Ok. Ben, ça me fait super plaisir d'être ici. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de viguiers dans les parages. Et donc, moi, c'est Philippe, je suis le troisième et je viens de finir mes études en théologie aux États-Unis, ma maîtrise. Et mon épouse et moi, on a hâte, très hâte de revenir en France. Enfin, pour elle, c'est de venir, pour moi, c'est de revenir pour être dans le ministère. Et c'est sûr que le ministère, il réserve beaucoup de choses. En tant que fils de pasteur, on en a vu toutes sortes en grandissant. Je me souviens, 7 ou 8 ans, avoir vu notre église en feu à cause d'un cocktail Molotov qui avait été jeté dans le sous-sol de notre église, qui avait tout brûlé dans le sous-sol. Je me souviens à 9 ans, enfin 10 ans, qu'on avait déménagé en France pour la première fois à l'église de la Faourette, pour les peu qui s'en souviennent. La première vision qu'on avait eue de cette église, c'était un bâtiment qui était entouré de couches et de déchets. C'était dans un quartier où les gens ne se souciaient pas de Dieu. Je me souviens, notre école du dimanche, elle était sur un côté, où la porte métallique avait été forcée juste assez pour laisser un petit trou pour les jeunes hommes du quartier pour uriner dans notre salle d'école du dimanche. Et donc le dimanche, quand on allait étudier la parole de Dieu, bah, il fallait faire un petit peu de nettoyage. Mais c'est sûr que malgré tout ça, je dirais que, en regardant la vie de mes parents, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les souffrances, si on leur demande, si on demande à ceux qui sont dans le ministère, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, pourquoi ? Parce que Dieu est là. Et si on regarde toutes les bénédictions de Dieu, c'est sûr qu'il y a... ça n'a pas photo, on peut pas comparer. Ce que Dieu fait comparé aux souffrances qu'on peut endurer pour lui, aux persécutions, aux difficultés, ça c'est rien comparé à la gloire qu'il nous donne de voir quand on est ses enfants. Et en fait, ce message de courage dans le ministère, de courage dans la vie chrétienne, comme on va le voir ce matin, c'était le message que l'apôtre Paul voulait passer à son disciple Timothée. Alors on va regarder un petit peu dans le livre de 2 Timothée, ben là il n'y a pas trop de présentation. Voilà. Dans 2 Timothée, on va regarder un passage en particulier, mais pour donner un petit peu la vision du livre, comme j'ai une occasion pour prêcher sur le livre, mais j'en fais un maximum. Paul avait laissé Timothée, et là je ne sais pas si on peut éteindre ces lumières, ça va peut-être aider un petit peu. Et là je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là il y a Éphèse. Et Paul avait œuvré à Éphèse pendant près de 3 ans. Oups. Et il avait enseigné dans un endroit et il disait dans l'épître aux Corinthiens que l'évangile s'était réparti dans toute l'Asie à cause de son ministère à Éphèse. Et donc c'était un ministère très très important dans cette ville d'Éphèse. Et cette ville d'Éphèse, c'est là où Paul avait laissé Timothée. Et quand on regarde à Éphèse, alors ça c'est le stade qui pouvait asseoir près de 25 000 personnes où Paul avait été tiré lors de l'émeute à cause des idoles que les gens d'Éphèse faisaient à la déesse Diane ou Artémis. Et donc c'était une grande ville, c'était une ville puissante. Comme on voit, il y avait des grandes rues. C'était la capitale romaine de l'Asie mineure, la quatrième plus grande ville de l'Empire romain. Et en fait, c'était une ville très très importante, très très clé. Et pour y œuvrer, il fallait des tripes. Parce qu'il y avait beaucoup de concurrence. Et par exemple, le temple d'Artémis, c'était une des 7 merveilles du monde. Et là, je sais pas si vous pouvez voir les petites personnes là, en blanc. Mais il y avait 106 piliers grands comme ça. Et vous imaginez la présence de ce temple parmi beaucoup d'autres temples. Et la concurrence par rapport à l'évangile, les gens, ils étaient à fond dans leur religion avec un S à la fin. C'était une ville aussi très riche. Alors, ce qui est sympa avec l'archéologie, c'est que avec le temps, avec l'érosion, il y a de la poussière qui s'accumule et puis de temps en temps on creuse et on voit des choses qui sont encore toutes faites. Et là on voit une maison d'Éphèse, une maison qui était très très belle et qui montre un petit peu en fait l'avancée de la ville d'Éphèse en fait hein, et la richesse des dirigeants. Puis c'était une ville qui était bien accommodée avec des toilettes publiques comme vous pouvez voir. Et on va pas faire d'essai aujourd'hui. Il y avait la bibliothèque de Celsus, en fait, qui a été construite un petit peu après le temps de Paul et Timothée, mais qui avait, enfin, c'était aussi une grande merveille de l'Antique. Il y avait plus de 12 000 manuscrits. Et comme on voit, il y avait la déesse ou la statue de la sagesse. Et c'était en fait, voilà, quoi, la religion grecque qui adorait la sagesse humaine. Et on voit que, enfin, Timothée avait dû lutter avec ça. Une ville impériale, il y a beaucoup de bâtiments construits pour les empereurs, par les empereurs, pour l'adoration des empereurs. Il y avait une ville divisée avec leurs idoles. Et aussi, si on voit là, il y a trois symboles sur cette sur ce trottoir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut deviner ce que c'est. Il y a une dame, un pied et un cœur. C'est bon, j'ai écrit en bas en fait, c'est facile. Une publicité sur le trottoir pour une maison de prostituées. Donc c'était aussi une ville remplie de péchés. Et lorsque Timothée commença son ministère à Éphèse, donc Paul avait laissé Timothée à Éphèse, il avait beaucoup de concurrence même au sein de l'église. Il y avait des faux docteurs qui s'étaient levés au sein de l'église, qui avaient créé des divisions, qui avaient probablement commencé leurs propres églises. Et alors Timothée, qui est encore jeune, qui est dans une ville les plus importantes en fait de l'Empire romain, qui est pasteur dans un endroit très difficile, et son meilleur ami, son mentor Paul, est en prison. Et là on voit pas trop, mais en fait la prison là qu'on a en photo, c'est la prison Mamertine. Et pour les trois qui étaient là l'année dernière quand j'ai prêché sur On est si fort, Paul avait été enfermé dans cette prison probablement, qui était en fait une citerne. Qui avait été aménagé en prison à Rome. Et après l'incendie de Rome, on se dit que les prisonniers étaient probablement pas très bien traités. Et en fait, cette prison, on voit pas trop. Bon, la prochaine, il y a un trou en fait. Je sais pas si vous le voyez en haut. Et on mettait les prisonniers par le trou. Et il y avait assez de place pour 20-30 prisonniers qui étaient entassés. Et puis une fois qu'ils étaient trop nombreux, il y avait une porte qui avait un levier. Ils levaient, c'était attaché aux égouts. Les égouts rentraient dans la prison et noyaient tout le monde et nettoyaient la salle. Et en fait, c'était la condition de Paul, le meilleur ami de Timothée, probablement, dans cette prison, en attendant sa mort, son exécution. La deuxième épître de Timothée, c'est la dernière lettre de Paul. Il s'apprête à mourir. Et c'est probablement un grand découragement pour Timothée. Alors, Paul encourage Timothée, c'est ce que nous allons voir. Une des phrases clés qu'on voit dans le livre, c'est « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Souviens-toi de Jésus-Christ. Paul va donner plusieurs rappels à Timothée au travers de son épître pour encourager Timothée, pour lui dire que oui, le ministère s'en vaut la peine. Oui, de vivre une vie chrétienne pleine, ça en vaut la peine. Malgré les difficultés, malgré la discipline qui est requise pour la vie chrétienne, ça en vaut la peine. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et bien sûr, on célèbre les fêtes de Noël. Et y a-t-il un meilleur moment pour se souvenir de Jésus-Christ, de qui il est et qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et donc, il lui donne plusieurs rappels au début de l'épître. Je continue à résumer, puis on ira dans notre passage. Il lui donne une première image qui est celle d'une chaîne incassable. Il appelle son fils bien-aimé, son enfant bien-aimé. Et il dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi ». Et même le mot en grec pour « servir », c'est un mot qui se lie à l'adoration, qui était lié au culte, en fait, des rituels. Et donc Paul rallie, en fait, le ministère d'Israël jusqu'à Timothée. Et il lui dit « Depuis le début de la création, depuis le début du peuple de Dieu, depuis le début jusqu'à maintenant, Dieu a toujours eu des chrétiens, enfin des chrétiens, des croyants qui étaient... qui étaient rachetés, qui faisaient partie de son peuple et qu'ils ont porté le flambeau. Et lui dit, cette chaîne est incassable. Elle a perduré de génération en génération et tu fais partie de cette chaîne. Tu es un maillon incassable. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et donc, c'est un encouragement à Timothée qui doit prendre le relais de Dieu. Il donne une autre image. Là, j'ai un lance-flamme. Il lui dit, je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu de Dieu. Et ranimer, le mot en grec, c'est le même mot qui veut dire de flamboyer à pleine flamme. Et Paul lui dit, Dieu t'a donné un don, comme il a donné à tous les chrétiens. Et le don que Dieu t'a donné, c'est un don qui va briller. C'est un don qui va casser, un don qui va avoir de l'impact. Souviens-toi du don que Dieu t'a donné. Souviens-toi de cette chaîne, souviens-toi de ton lance-flamme, et souviens-toi de ton trésor qui est l'évangile. Il lui dit, garde le bon dépôt. Et au premier siècle avant Jésus-Christ, ils n'avaient pas les banques comme nous les avons aujourd'hui. Et donc, si on avait des choses précieuses, qu'est-ce qu'il fallait faire quand on voyageait? Il fallait les confier à des gens de confiance, à des gens de qualité. Et en fait, c'est ce que Dieu nous a donné à ses croyants. Il nous a donné son plus beau trésor, qui est son évangile. Et c'est le dépôt qu'on doit garder jusqu'à la prochaine génération. Pour donner, transmettre ce trésor sans erreur, sans altération, pour la génération suivante. Et c'était la vision de Paul et l'encouragement de Paul. Alors, quelque chose qui s'est bloqué. Oups. Voilà, alors un plan du livre très rapidement jusqu'à notre passage. Il commence avec les salutations, des rappels, et puis finalement il donne des motivations sur la sainteté par le moyen de la sagesse. Paul lui dit, ok, bon, t'as l'évangile, t'as le don, t'as tout ce qu'il te faut, Dieu t'a équipé, ben maintenant il faut regarder à ta propre vie, il faut regarder à ton cœur. Dieu t'a donné tout ce qu'il t'a besoin pour pouvoir avoir une vie chrétienne qui soit pleine, qui soit remplie et qui bénisse les gens. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de regarder à ton cœur, à ton caractère, pour être sur la bonne voie. Et pour pouvoir arriver à cela, il faut entreprendre par le moyen de la sagesse de Dieu. Et donc on arrive à 2 Timothée 2, 20 à 22, qui dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions du témoignage de Paul envers Timothée, qui même en prison continue à te louer, continue à avoir de l'espoir, continue à te glorifier, sachant que lorsqu'on fait partie de ta famille, de cette chaîne incassable, notre espoir est certain. Et on te prie, Père Céleste, qu'au travers de ce passage, nous puissions être encouragés, être renouvelés dans notre quête vers la sainteté, afin que notre témoignage sur cette terre puisse être vibrant, plein de vie, et un bon témoignage pour ceux qui ne te connaissent pas, et un témoignage d'encouragement pour les autres chrétiens. Aide-nous, Père Céleste, à être motivés, à être inspirés, et à vouloir changer de gloire en gloire, en se souvenant de Jésus-Christ. En ton nom on prie. Amen. Comment puis-je être un vase de valeur dans les mains de Dieu? C'est la question qu'on va essayer de répondre ce matin. Comment puis-je être un vase de valeur? On voit 3 différents aspects. Ah ben voilà. 3 aspects différents. Donc on va voir dans verset 20, 21, 22. Verset 20, Paul rappelle à Timothée qu'il est un outil, il est un vase. Et le mot pour vase, en fait, en grec, c'est un peu plus vaste que le mot vase. C'est un mot qui signifie, en fait, être un ustensile, être quelque chose un conteneur. C'est un peu plus vaste. Il dit d'être, rappelle-toi, t'es un outil. Deuxièmement, il lui rappelle-toi que t'es dans la maison de Dieu, rappelle-toi du maître. Que tout est centré sur le maître. Et troisièmement, rappelle-toi de combattre pour ce qui est important. Et donc Paul encourage Timothée à être saint. Alors quand on pense à la sainteté, qu'est-ce qui vous vient par la tête? Qu'est-ce qui traverse l'esprit quand on pense à la sainteté de Dieu? Je ne sais pas vous, mais des fois quand j'entends des messages sur la sainteté, quand j'étudie la sainteté, j'ai tendance à percevoir la sainteté des fois comme quelque chose d'un peu négatif, comme quelque chose d'exigeant, comme quelque chose de difficile. Je ne sais pas vous, mais souvent on entend on lit sur la sainteté et c'est la sainteté qui demande le jugement de Dieu. On lit sur la sainteté, c'est la sainteté qui pousse à la colère de Dieu pour ceux qui ne sont pas saints. Et en fin de compte, même dans mon propre cœur, je vois que des fois la sainteté, je peux la percevoir de manière très négative. Mais pourquoi, en premier lieu, Dieu demanda à son peuple à être saint ? Parce qu'il est saint, mais pourquoi ? Pour qu'il puisse avoir un peuple qui puisse aller jouer avec eux et pas se sentir en colère à chaque fois ? Pour pouvoir s'apaiser de tous les autres peuples qui sont pécheurs ? Pourquoi Dieu voulait-il un peuple saint ? Exactement. Pour pouvoir être avec une relation profonde et personnelle avec son peuple, c'était le but. Pas pour qu'à chaque fois qu'il se rebelle, il les punisse. Le but depuis le début, comme on voit en Deutéronome 23, 14, car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Le but de la sainteté, en fait, c'est une relation personnelle et profonde avec Dieu. Dieu voulait qu'Israël soit proche de lui. Et bien sûr, il avait tout un système pour que le peuple soit saint, avec des rituels, avec toutes les fêtes d'Israël organisées autour de sa personne, de sa sainteté. Pourquoi ? Il voulait qu'Israël soit saint pendant toute l'année, pour qu'il soit en communion avec Dieu pendant toute l'année. Que chaque moment soit une opportunité pour Israël de connaître Dieu davantage. La raison pour laquelle Dieu voulait qu'Israël soit saint, pour laquelle Dieu veut que nous soyons saints, c'est pour que notre communion avec lui soit riche et profonde. Comme on voit en 1 Pierre, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alors oui, il faut être saint, mais on appelle Dieu père. Oui, il faut être saint, mais il nous appelle ses enfants. C'est la beauté qu'on voit dans ce passage de Pierre. Oui, Dieu nous appelle à être saints, mais c'est dans le cadre d'une communion qui est riche et profonde avec Dieu. Et c'est ce que Timothée devait se rappeler. Pour être utilisé de Dieu, il faut être près de Dieu. Enfin, ça, c'est la clé. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Il y a deux sortes de vases, deux sortes d'outils que Dieu va utiliser. Certains sont des outils d'honneur qu'il va utiliser avec fierté, qu'il va montrer aux gens. Et d'autres, des outils qui sont vils. Alors le mot pour maison dans ce passage, en grec c'est méga maison, une grande maison. Et on se dit, la maison en fait c'est l'image de la terre, à l'Éternel, la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde, ceux qui l'habitent. Dieu est le maître du monde, il a créé, tout lui appartient. Mais quand on pense à une grande maison grecque, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans une grande maison grecque ? Quels sont les vases, quels sont les outils qui seraient nécessaires ? Et bien sûr, dans une grande maison, il y a besoin de toutes sortes d'outils différents, toutes sortes de personnes différentes, toutes sortes de vases différents, des gens de qualité, et puis des gens pour nettoyer les toilettes. Et vous savez, Paul il est direct, hein, les vases d'honneur de qui sont pas d'honneur, c'est un contraste qui est très très net. Très très net, on va voir ça dans un moment. Mais Dieu nous compare à un vase au travers des Écritures, on voit ça en Ésaïe 64, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile. » C'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Par rapport à Dieu, qu'est-ce qu'on est ? On n'est rien. Il nous forme comme il veut. Il fait ce qu'il veut avec nous. Nous ne sommes que des outils. Nous ne sommes que des vases. La gloire ne réside pas en nous, la gloire réside en Dieu. Et c'est pour ça que l'image de Paul est puissante. Parce que c'est pas nous qui sommes le centre de l'histoire, mais c'est Dieu. Et la seule façon pour Dieu de nous utiliser à pleine puissance, c'est lorsqu'on est dépendant de lui et qu'on se comporte comme ce que nous sommes, des images qui sont dépendantes de Dieu. des vases qui sont dépendants de Dieu. On voit ça au travers de la Bible. Alors si vous pensez à d'autres images qui pourraient se rapprocher à celle d'un vase, c'est sûr que la Bible elle parle pas toujours de l'homme, enfin elle parle pas de nous au même niveau que Dieu, ça c'est sûr. Et des fois il y a des images qui sont utilisées dans la Bible qui paraissent même un peu négatives. Par exemple, la Bible nous compare à des moutons. Alors un mouton c'est pas intelligent. Un mouton c'est bête. Et je sais pas vous, mais si jamais vous auriez la chance de rencontrer le mouton le plus intelligent du monde, bah ça serait quand même qu'un mouton. Et même si c'est le mouton le plus beau du monde, bah ça reste qu'un mouton. Et des fois nous on se compare les uns aux autres et puis on est tout fier, je suis tellement beau, je suis tellement intelligent, je suis tellement fort, et Dieu regarde en haut et t'es qu'un mouton, hein, t'es qu'un homme. Et le fait, c'est que la manière dont on devrait se percevoir nous-mêmes, c'est vraiment d'être des outils de Dieu. La Bible compare Israël à un ver en Ésaïe. Quel est ce ver de Jacob? Dieu dit à Israël. Alors, pour soigner votre estime, c'est pas dans ces passages que vous vous tournez, mais c'est par rapport à Dieu, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Qu'on soit l'homme le plus intelligent par rapport à Dieu, qu'est-ce qu'on est? On est un ver, on est rien. La Bible nous compare à des vermisseaux. En Job, un des amis de Job dit mais l'homme, c'est qu'un vermisseau qui se réveille le matin et puis il disparaît. Que sommes-nous par rapport à un Dieu éternel? Nous ne sommes rien. En Pierre et puis en psaume 103, on voit que l'homme est comparé à la fleur des champs qui grandit et puis qui disparaît, qui sèche et qui meurt. Et notre vie n'est qu'un souffle. Et pour pouvoir comprendre la sainteté de Dieu, pour comprendre notre rôle par rapport à Dieu, par rapport à la vie chrétienne, il faut savoir se remettre à notre place. Et Paul, il est fort pour remettre les gens à leur place. Et Timothée, en l'occurrence, devait comprendre que si vous voulez avoir une vie chrétienne qui soit riche, un ministère qui soit riche, un impact pour le royaume, il fallait pas qu'il se tourne vers lui-même. Si on se tourne vers nous-mêmes, on va vite être découragé. Qu'est-ce qu'on a à offrir à Dieu qu'il ne nous a pas donné? Ben absolument rien. Mais lorsqu'on dépend de Dieu, on a tout à lui offrir. Et à son Église. Et là, Paul nous compare à des vases. Alors, je sais pas vous, mais quand vous voulez complimenter quelqu'un, je sais pas si vous allez vers cette personne et vous dites, quel beau vase vous êtes aujourd'hui. Quel beau vase. Vous êtes un vase doré. Quel bel ustensile. Bien sûr que non. Mais c'est l'image qu'on va voir, en fait, par rapport à la maison de Dieu. Nous ne sommes que des outils. Mais la belle chose, c'est qu'on peut refléter Dieu. C'est pour ça qu'il y a des outils qui sont en or et en argent, qui sont différents que des outils en pierre, enfin des outils en bois et en argile, comme on voit. Et le plus grand fan, la personne qui apprécie le mieux l'or et l'argent, ben c'est nul autre que Dieu. Dieu a une appréciation pour ce qui est précieux et ce qui est beau. Et donc, si Dieu avait une maison pour inviter les gens, pour manifester sa beauté, pour bénir, alors forcément, il décorerait sa maison avec ce qui est beau. Et il mettrait en avant ce qui est beau. On voit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Tout est centré sur Dieu. Et donc il y a le contraste entre les vases d'or et les vases d'argile. Bon, ça c'est des vases grecs hein, du 1er siècle. En fait, je suis pas sûr. Mais l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dieu, il aime l'or, il aime l'argent. Lorsqu'on regarde à la ville sainte, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem au ciel, elle est faite de quoi? En or pur. Les routes sont faites d'or pur, les murs sont faits d'or pur. Tout est fait de matériaux qui sont beaux, qui sont glorieux. Pourquoi? Parce que Dieu apprécie ce qui est beau. Et par contre, quand on regarde aux lamentations de Jérémie, il compare le peuple juif qui est à ce moment-là décimé, qui est persécuté, envoyé en exil, la maison de Dieu est détruite et il dit « Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés hélas comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. » Et là, il y a quelque chose qui cloche, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. On a été créé pour refléter Dieu. Et lorsqu'on se comporte comme des vases qui sont vils, on ne manifeste pas l'image de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui cloche. Et alors Timothée, son nom porte le même mot en grec, des vases d'honneur. Le mot honneur, c'est timé, timéo. Et usage vil, le mot pour vil, c'est atimeo. Et en Paul, il tord le cou d'un peu Timothée et il lui rappelle en fait très personnellement, ton nom Timothée, ça veut dire t'es précieux à Dieu. Et on est tous, d'un point de vue, on est tous opposés d'être des Timothées, des gens qui sont précieux à Dieu. Et Paul, il lui dit, si t'es précieux à Dieu, ben souviens-toi, t'es un outil. Et sois un outil qui soit proche de la main de Dieu. Sois un outil qui soit disponible à Dieu. Sois un outil qui soit pur et saint. Seuls les outils purs et saints vont être utilisés de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et ce mot pour magnificence est traduit en hébreu par le mot timé, honneur. Timéo, et pareil dans la Septante qui était la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et en fait, on voit que Dieu a créé l'homme pour être un vase d'honneur. Dieu a créé l'homme pour le refléter pleinement. Pareil avec Israël. Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, et en magnificence ou en honneur, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Dieu désire un peuple qui lui porte honneur, un peuple qui le reflète. C'est pour ça qu'on voit dans le Nouveau Testament, l'honneur appartient à ceux qui croient, l'honneur appartient aux croyants. Parce qu'on ne peut pas refléter la gloire de Dieu sans avoir le Saint-Esprit de Dieu. Et on ne peut pas plaire à Dieu sans être né de nouveau. C'est une question de représentation. Si on est un outil de Dieu, si on est dans sa maison, alors faut le représenter. Faut représenter sa beauté, faut représenter sa gloire, faut représenter sa magnificence. Et Dieu désire des outils qui le reflètent. C'est ça qui est beau avec l'or et l'argent, c'est qu'on peut y voir notre reflet, pas comme le bois et l'argile. Et le mot pour ville est traduit en latin dans la Vulgate par le mot qui signifie insulte. Et on voit ça en Jean 8, 49, lorsque Jésus est accusé d'avoir un démon, d'être un samaritain. Il dit « J'honore mon père et vous m'outragez ». La même racine que ville, que manque d'honneur. Et donc, il va y avoir deux sortes de vases. Soit on représente Dieu, ou soit on l'insulte. Il n'y a pas de milieu. Soit on vit une vie qui porte gloire à Dieu, soit nos actions représentent Dieu, reflètent Dieu, ou soit nos actions sont une insulte pour le Dieu Tout-Puissant. Et alors, Timothée, Paul le motive pendant toute l'épître à ne pas avoir honte, à porter honneur à Dieu. C'est un fil conducteur de l'épître. Il lui dit plusieurs fois, n'aie point honte de moi dans les chiens, n'aie point honte de l'Évangile. Il lui dit de tenir ferme. Pourquoi ? Parce que si on ne tient pas ferme, si on n'est pas courageux pour le Seigneur, mais qu'est-ce qu'on devient ? On devient des vases vils qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Et donc on a le choix. On a le choix entre être des outils qui portent honneur à Dieu, que Dieu peut mettre dans sa maison et montrer à tout le monde, ou d'autres outils qui, ben voilà, on cache dans une salle, on ferme la porte à clé. Et lorsqu'on regarde la différence entre les vases d'or et les vases d'argile, lorsqu'on fait un petit peu d'archéologie, j'ai vécu en Israël pendant 4 ans, il y a une chose qu'on voit partout, c'est de l'argile. C'est des morceaux de vases. Pourquoi ? Parce que les vases, tu les utilises, ils se cassent, et ben t'en fais d'autres, peu importe. Les vases d'usage vil, c'est des vases qui vont être détruits, qui ne durent pas. Et Dieu veut que il veut nous donner la vie éternelle, il veut un ministère qui est dans chacun de nous, qui dure, qui perdure. J'ai une petite fille qui a 7 mois, je lui change les couches, et une fois que la couche est pleine, on la garde pas. Pourquoi ? Ça a été utilisé pour un usage vil, et puis on jette. Et Dieu va utiliser les vases d'usage vil pour son jugement. parce qu'il ne va pas pouvoir les utiliser pendant l'éternité. Et donc on a le choix d'être un vase d'usage glorieux ou vil, ou vain. Et puis on se tourne vers le deuxième point de notre message. Alors premièrement, il faut se rappeler de qui nous sommes. Nous sommes simplement un outil dans les mains de Dieu. Et deuxièmement, il faut se rappeler du maître. On vit dans une maison où il y a un maître. Et Dieu est ce maître. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et le mot pour conserve pur, en fait, en grec, c'est le mot de se purger. Et donc ça veut dire en fait qu'il y a déjà du péché en nous. Il n'y a personne qui soit parfait. Dieu nous appelle pour être des vases purs, de se purifier constamment, de continuer à abandonner le péché, de se détourner de ce qui est vil, de se détourner ce qui ne plaît pas à Dieu. Et ça, c'est sûr que nos vies en sont remplies, de péchés et de maux et de choses à changer. Et Timothée, c'était la même chose. Il devait se détourner de ces choses qui le ralentissaient dans son ministère, dans sa vie chrétienne, pour faire face pleinement à Dieu et courir vers Dieu. Donc quand on voit le péché, il y a un autre endroit, un autre verset où le même mot grec est utilisé, un seul autre verset en fait, hein, pour purger. Lorsque Paul écrit « Faites disparaître, purgez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » En fait, le péché, ce n'est pas quelque chose avec quoi lutter. Des fois, on dit « je lutte avec le péché ». Non, le péché, c'est quelque chose à abandonner, à fuir. On ne joue pas avec le péché. Alors, l'ennemi, c'est le péché. Alors, il y a trois C à faire. On le capte, on le confesse et on le crucifie. La Bible ne nous dit pas de jouer avec le péché. Non, lorsqu'on le voit dans notre vie, lorsqu'on le perçoit, on le confesse directement à Dieu et on a confiance en lui pour qui nous donne la puissance de le confesser. Et des fois, je pense que la raison pour laquelle notre vision de Dieu devient de plus en plus petite, c'est dans nos églises, dans la vie des chrétiens, c'est souvent parce qu'on oublie la puissance de Dieu pour nous purifier du péché. Et lorsqu'on regarde à chaque fois que Dieu révèle son caractère, comme en Exode, lorsque Moïse lui demande de voir sa gloire, qu'est-ce qu'il dit ? Je suis un Dieu miséricordieux. Miséricordieux, c'est pour qui ? Ben, c'est pour les pécheurs. Un Dieu compatissant. Compatissant pour qui? Ben pour les pécheurs. Lent à la colère. Pour qui? Ben pour les pécheurs. Qui est riche en bonté, en fidélité, mais tout est centré. Tout ce que Dieu révèle sur son caractère, en fait, c'est centré pour aider des pécheurs à avoir la victoire. Et Dieu nous donne la pleine puissance pour avoir la victoire sur le péché. Et pour se faire connaître au travers des victoires qu'il nous donne. Donc on s'abstient du péché, puis il dit il sera un vase d'honneur. C'est une belle promesse. Il sera un vase d'honneur. Si nous vivons pour rendre gloire à Dieu, Dieu va nous utiliser, c'est une promesse. Si on se comporte comme des gens saints, Dieu va nous mettre sur sa commode avec ses assiettes de porcelaine de Chine. Si on se comporte en tant que personnes saintes qui font honneur à Dieu, qui le reflètent dans chaque chose que nous faisons, Dieu va nous mettre en honneur, Dieu va nous utiliser, Dieu va être glorifié au travers de notre vie. Car il a dit « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et même on voit en Exode, Dieu dit à Israël, après qu'ils aient fait le veau d'or, « Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont lieu dans aucun pays, chez aucune nation, tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de Dieu. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles ou des choses magnifiques qui pourraient être traduites. » Dieu avait choisi Israël pour les utiliser, pour émerveiller les nations autour d'Israël. Dieu voulait honorer Israël et les utiliser pour être une source de lumière, une source de beauté et une source d'honneur. Et c'est ce que Dieu veut faire au travers de chacun de nous. Lorsque nous combattons pour la sainteté, pour être purs, Dieu désire nous utiliser. Il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonheur. Donc l'image, en fait, Dieu va nous mettre dans sa maison, il va nous montrer aux gens, il va utiliser nos dents, Il va nous mettre en avant si on est saint. Dieu va vouloir nous utiliser. Si on est un outil proche de sa main, Dieu va nous utiliser. Il va voir à quel endroit on doit être utile, quand il peut utiliser nos dons, et Dieu va se faire glorifier au travers de notre service. Ça, c'est la promesse que nous avons. Si nous sommes fidèles, Dieu sera encore plus fidèle. Et donc, si vous avez des objets d'honneur, vous voulez mettre en avant. Lorsqu'on a des objets d'honneur, on ne veut pas les cacher. Et donc, quand les gens me demandent ce que je pense de mes parents, ben, moi, je leur montre un beau cadre, avec toutes les bénédictions qu'on a reçues pendant les années. Voilà, notre pasteur, en place d'honneur. Puis la beauté, c'est que, comme on voit au psaume 2, tout a été donné à Christ. Et il paie les nations comme celle d'un potier. Et il peut briser le vase de n'importe quelle nation. C'est mon espoir pour la France. Peu importe à quel point notre pays peut être rebelle contre Dieu, Dieu peut prendre la France comme un vase et le faire tomber. Et tout casser et changer tout comme il veut. Tout lui appartient. On est tous ses outils. Et lorsqu'on est proche de Dieu, on voit l'œuvre de Dieu. Et Dieu peut casser le péché. Dieu peut briser les pécheurs et les amener à lui. Dieu peut changer tout ce qu'il veut. C'est la beauté. Lorsqu'on est proche de Dieu, on peut être utilisé et voir sa gloire. Et puis finalement, alors premièrement, il faut se rappeler qu'on est un outil de Dieu. Deuxièmement, il faut se rappeler du maître. Tout est centré sur le maître. Et puis troisièmement, il y a un combat. Et on voit ça aussi au travers de l'épître de Timothée. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice. Et le mot pour recherche, c'est le même mot en hébreu, en grec, pour persécuter. C'est le même mot pour poursuivre. Tu fuis les péchés, c'est pas ton combat. De se battre avec le péché, c'est pas ton combat. Si tu luttes avec le péché, si tu es perdu dans le péché, tu vas pas pouvoir lutter et combattre pour la justice, pour l'amour, pour la paix, pour la foi. Et ça, c'est le combat des croyants. Pas de se faire absorber par le péché, d'être ralenti par le péché, mais de combattre pour représenter Dieu au travers des attributs qu'il nous donne de porter. Si nous voulons être saints, si nous voulons être utilisés par Dieu, il faut choisir notre combat. Et quand on regarde à ces différents aspects, la justice, la foi, la charité, la paix, c'est des choses que Dieu utilise pour mettre en évidence la réalité, la profondeur du témoignage de ses enfants. Jacques, le frère de Jésus, était appelé Jacques le Juste, même par les non-croyants. Parce que la manière avec laquelle il vivait rendait un tel témoignage de ses valeurs, de ses convictions, que son témoignage était le témoignage d'un homme juste. Et lorsqu'il fut mis à mort par le haut sacrificateur, même les non-croyants de Jérusalem portèrent plainte en sa défense. Et le sacrificateur fut renvoyé à cause du témoignage de Jacques, un témoignage de justice. Et si nous voulons mettre en évidence l'honneur de Dieu, nous devons être, comme Jacques, des hommes, des femmes qui reflètent la justice de Dieu. C'est intéressant juste d'étudier l'utilisation du mot justice dans la Bible. Noé était considéré un homme juste parce qu'il vivait sans reproche dans sa génération. Être un homme juste, une femme juste, c'est quelqu'un qui vit en étant une bénédiction aux autres. Et puis la foi, qu'est-ce d'autre qui peut manifester notre dépendance à Dieu que notre foi? Et lorsque je parle souvent des non-croyants pour essayer de témoigner, il y a une chose qu'ils ne peuvent pas contredire, c'est la foi. Lorsqu'on le parle des pas de la foi qu'on a fait, par exemple, mon épouse et moi, des fois, enfin, par la grâce de Dieu, on ne vit pas avec beaucoup, mais ça nous arrivait de voir des gens qui sont plus dans le besoin que nous, alors on leur donne notre argent, puis on s'attend à Dieu pour pouvoir. Et lorsqu'on témoigne de ça aux non-chrétiens, ben, ils ne peuvent pas contredire. On vide notre compte en banque, et puis Dieu pourvoit la semaine d'après. Une fois après l'autre, après l'autre, après l'autre. On fait des pas de la foi, puis on voit que Dieu est glorifié. Et on ne peut pas contredire le témoignage de la foi. Et la charité, l'amour, Jésus a dit en Jean 13, 35, mes disciples seront connus par leur amour. Et les non-croyants voient l'amour que les croyants ont et la paix. Quand on regarde le nombre de divorces en France, de familles brisées, de relations qui ne durent pas, d'être des vaisseaux de la paix de Dieu, d'arriver dans une relation et d'amener aucune tension, mais simplement la bénédiction, ça c'est des vases d'honneur. Ça c'est des vases d'honneur. Et bien sûr, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et c'était le but du ministère de Timothée, comme Paul lui avait donné 1 Timothée 1:5, le but de ton ministère, c'est une foi sincère qui vient d'un cœur pur. Lorsque notre cœur est bien disposé envers le Seigneur, Dieu va nous utiliser comme des vases d'honneur pour lui rendre honneur sur cette terre, pour faire une différence. Amen. Je vous invite à prier ensemble que le Seigneur nous bénisse et nous donne de plus en plus de sagesse pour pouvoir être des vases d'honneur.